La roue ou la noria des saisonniers agricoles, c'est le titre d'un livre qui vient de sortir aux éditions Kiasma Sud. Johan Lamoulaire est photographe, Patrick Herman est journaliste, auteur et paysan. Tous les deux savent de quoi ils parlent et ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble pour témoigner et raconter le sort de ces milliers de migrants servant de main-d'œuvre à l'industrie agroalimentaire, que ce soit en Espagne ou ici, dans ce beau département des Bouches-du-Rhône. Saint-Martin-de-Croix, Berlétan, El Herido ou encore Huelva sont aujourd'hui devenus de grandes propriétés de production de fruits et légumes pour la grande distribution. Voici un tout début de plantation de décors, puisqu'aujourd'hui nous sommes réunis avec Patrick Herman, Johan Lamoulaire, Louis Breton, Hervé Gouillet et Denis Nathanelic. Ces trois dernières et tous ensemble aussi sont ici aussi au nom du CODETRAS, le collectif de défense des travailleurs saisonniers immigrés de l'agriculture intensive. Alors bonjour et bienvenue dans nos studios à tous. Nous allons pendant une petite heure parler de votre livre, Patrick Herman et Johan Lamoulaire. Et ensuite, nous reviendrons sur quelques bases pour bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un contrat OMI ? Les circuits et les accords entre la France, le Maroc, la Tunisie pour fournir cette main-d'œuvre en masse et à bon marché. Mais en attendant, musique, donnez-nous. C'est un extrait de l'album « Debout là-dedans » du ministère des Affaires étrangères.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel, on veut du fat, du frais et pas de l'industriel, on veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel, on veut du fat, du frais et pas de l'industriel, on veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Brûlure acoustique, intoxication musiculaire, inflammation du tympan, le diagnostic est clair. Surconsommation, chanteur en bois et en plastique. J'adore le chimique. Pour tout ce prix d'aigu, variété aux musiques, aux boulémies. Pour ceux qui en cachette, mate les clips de Laurie. Pas le choix, faut se mettre à la diète. Boycott, voici la recette. Mais attention à la chute, un as et ça repart. Un truc qui te fera danser dans les boîtes et les bars. Le jour où t'as le blues, t'es pas bien, t'en as marre, tu fais
chihuahua.
Et ça redémarre. Du congelé réchauffé, chaque été vite servi. Efficace comme les bonnes idées de Marie. Une chorégraphie simple, par quatre bombes bien sexy. Désolé, j'aime la dinde, mais pas dans ma vie.
Allez. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
On est devenu des consommateurs génétiquement modifiés. Cobaye d'expériences scientifiquement élaborées. Après des manipulations transgéniques multiples, voilà qu'on se met à aimer la nouvelle pop star académique. On se met à regarder son dernier clip en boucle en secrète pour pas se faire chambrer, parce que c'est la honte quand même. Et même si c'est indigeste, même si c'est dégueulasse, avec un bon McDo et un verre de coca,
ça passe.
Et allongé dans notre canapé, on n'en perd pas une miette. On crie au scandale, mais pas question de changer de chaîne un peu. Comme quand on se met à mater l'île de la tentation un peu. Comme à l'époque d'Hélène et les garçons, mais bon, élevé à la soupe chimique et à la merde en grain. On nous gave, on nous conditionne, on nous engraine. Et même le consommateur plus averti se laisse mettre en boîte.
Mais c'est de la merde,
ouais, mais c'est ça qui tourne en boîte.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
S'il fallait ingurgiter ce qui nous sert sur TF1, il y a longtemps que j'aurais entamé une grève de la faim. C'est pas je vais faire mon difficile, mon blasé, ma fine bouche. Mais ras-le-bol de leur soupe industrielle servie à la louche. De leur yaourt indigeste à dégueuler dans les chiottes. De leur nouvelle star en toc fabriquée dans un loft. Faudrait que José Bové à la high school vienne nous aider. Les artistes au GM mettent notre santé en danger.
Je veux l'artisanal, du bon pain au son à l'ancienne. Pas comme ces tubes popcorn qu'on nous fabrique à la chaîne. Denrées périssables, à ne pas conserver plus de 3 semaines. C'est les Kleenex, t'achètes tout, t'écoutes et tu jettes. Emmenez-moi au bout de la terre, sur une île déserte. Pas de filles en bikini, pas de caméraman. Seul, avec mon Walkman, avec mes disques de Bob Marley, d'Aznavour et Réam.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel.
industriel. On veut du sain, du sain, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du sain, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Le ministère des Affaires populaires et non pas étrangères, comme je disais tout à l'heure. Merci, Johan, de m'avoir repris. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce plateau. On va commencer par vous, Johan Lamoulaire et Patrick Herman. On va commencer par parler de la genèse de ce livre La Roue ou la Noria des saisonniers agricoles.
Oui, moi, je vais reprendre un peu peut-être à partir de la genèse de mon travail sur les saisonniers agricoles et puis jusqu'à la rencontre avec Johan. Et puis, je lui passerai le relais et prendra la suite. Donc en fait, il s'est trouvé qu'en 2002 ou 2001 plutôt, en février 2001, janvier 2001, je travaillais pour Politis à l'époque et je suivais José Bové dans la campagne pour les élections aux chambres d'agriculture. Et donc on était passé en 3 jours depuis l'Ardèche jusqu'aux Alpes de Haute-Provence et on avait terminé à Perpignan. Et en passant à côté de Sisteron, on avait rencontré une association qui s'était créée après l'assassinat d'un ouvrier portugais qui venait ramasser les pommes, puisqu'il y a beaucoup de cultures de pommes sur des grosses propriétés depuis l'implantation du barrage de Serpenson. La culture de la pomme a descendu des Basses-Alpes beaucoup plus vers le sud à cause de l'irrigation, quoi. Et voilà, donc on avait rencontré ces gens-là, on avait discuté rapidement. J'étais revenu les voir à l'occasion d'une fête qu'ils avaient fait un an après l'assassinat de cet ouvrier portugais qui avait été assassiné donc au bord de la route par quatre gars alcoolisés qui s'en étaient pris au portugais dans le village. Un acte raciste caractérisé. Mmh. Et donc, j'avais discuté avec ces gens-là un an après, au moment de cette fête. Et ils m'avaient dit, il n'y a pas ici qu'il y a des ouvriers agricoles. Il faudrait que tu ailles voir dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on m'avait donné quelques contacts. Je suis parti un peu sur les Bouches-du-Rhône. J'ai découvert au fil du temps, donc j'ai pris contact avec Denis Nathanelli qui est ici présent. Au fil du temps, j'ai découvert un peu la situation dans les Bouches-du-Rhône. Et puis après, je me suis posé la question de savoir si les Bouches-du-Rhône étaient une exception finalement dans un système. Est-ce que c'était une variante, disons, république bananière dans un système normal par ailleurs? Ou est-ce qu'il y avait d'autres zones de production intensives où on retrouvait les mêmes caractéristiques? Et à ce moment-là, je me suis joint à une mission organisée par le Forum civique européen qui se rendait à El Ejido, donc à côté d'Almeria, donc cette fameuse zone où il y a 30 000 hectares de serre, même plus maintenant, plutôt proche de 40 000. Et de fil en aiguille, donc je suis retourné 2 fois, 3 fois à El Ejido. De là, j'ai migré vers la zone de production intensive de fraises, donc 300 000 tonnes par an à Huelva. Et puis, ça a été un peu une rencontre aussi avec les salariés marocains à la retraite ou qui continuaient à travailler en France dans le RIF marocain. Et voilà, tout ça donc s'est fait sur en gros 4 ans, puisque moi j'ai commencé à découvrir cette réalité-là, on peut dire véritablement à l'automne 2002, septembre 2002. Donc ça fait bien 4 ans effectivement. Et donc j'ai croisé la route de Johan au bout de quelques temps.
Alors moi, j'étais étudiante à l'école d'Arles, à l'école de photo, en fait, et j'ai commencé à travailler dans l'agriculture plutôt dans la zone d'Arles, pas du tout dans la zone de Berne ni de Marseille, sur les asperges et plutôt les melons, puisque j'avais envie de travailler sur des populations qu'on croise toujours sur la route en transit et puis qu'on voit pas vraiment, en fait. Et un peu pareil, Denis qui est à côté, c'était un point de rencontre un peu pour tout le monde peut-être. En fait, j'ai voulu travailler plus largement sur la zone ou sur le sud de la France. Et donc du coup, moi aussi, j'ai contacté le Codetras et j'ai rencontré Patrick comme ça. Donc en fait, on a fait une première expo photo pour l'Asti de Berre, qui est une structure qui fait aussi partie du Codetras. Et une petite maison d'édition qui s'appelle Kiasma est venue nous rencontrer pour voir si on voulait bien faire un livre sur le sujet et sur les différentes zones dans lesquelles on a travaillé, c'est-à-dire la France, le Maroc et l'Espagne.
Ouais. Un livre qui sort en ce moment, qui s'appelle La Roue. Alors, est-ce qu'on peut préciser un peu ce titre, La Roue, la Noria?
Alors, ce n'est pas vraiment un titre ni explicite, ni vendeur, ni je ne sais quoi. C'est un titre qui est plutôt abstrait. En fait, ça vient d'un enregistrement sonore qu'on a fait dans le RIF d'un petit gamin qui tire une espèce de pelletée de fruits sur une charrette qui fait un bruit de roue, quoi. Et en fait, moi, le premier travail que j'ai monté sur les saisonniers agricoles, je l'ai monté en projection. Et je l'ai présenté dans pas mal de forums, de salons bio, de trucs comme ça. On travaillait un peu avec la Confédération Paysanne. Et donc voilà, c'est juste ce son qui est resté. Je n'avais pas forcément envie de donner au titre quelque chose de trop tranché ou de trop explicite. Et voilà, on a gardé ça parce que la roue, comme quelque chose qui tourne et qui s'arrête un peu jamais, quoi.
Denis, on parle beaucoup de vous là depuis le début. Apparemment, vous êtes un peu l'élément qui a fait les connexions, en tout cas pour ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail ?
Enfin, c'est pas le même qu'aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 5-6 ans, je travaillais dans la plaine de la Croix et je faisais depuis une quinzaine d'années l'accueil des populations étrangères et plus particulièrement des ouvriers agricoles marocains, qui sont en majorité les ouvriers qui travaillent sur les exploitations de la Croix et de l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Donc je faisais un accueil social, administratif, un accompagnement juridique aussi de ces personnes. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai commencé à participer à ce qui est devenu le Code des Traces aujourd'hui, mais qui a été au départ un assemblage de quelques personnes qui étaient mobilisées sur la question des saisonniers agricoles, plus particulièrement des saisonniers dits OMI.
Très très bonne transition. Merci. Est-ce que quelqu'un peut préciser qu'est-ce qu'un contrat OMI ?
C'est un contrat qui est tripartite, on va dire. Enfin, pas vraiment tripartite, mais qui passe par un employeur, un travailleur saisonnier, qui est chapeauté par la direction départementale du travail et qui fait appel à l'ANAEM, qui s'appelait avant l'OMI, l'Office des Migrations Internationales, qui est cette agence gouvernementale qui est chargée du recrutement, enfin, et du transport des travailleurs étrangers, de l'introduction de la main-d'œuvre étrangère en France, quoi. Sachant que depuis 1974, l'introduction de main-d'œuvre étrangère est quasiment nulle, sauf dans certains secteurs, et en particulier le secteur des travailleurs saisonniers agricoles. Voilà. Donc le contrat OMI, c'est ça qu'on appelle le contrat OMI. Sachant que dans les Bouches-du-Rhône, il a une particularité, c'est que l'administration s'est servie des saisonniers pour pourvoir les besoins de main-d'œuvre permanente de l'agriculture en tordant un peu le cou au statut de travailleur saisonnier, c'est-à-dire en leur accordant une autorisation de travail à 8 mois par an au lieu de 6 mois, ce qui est en contradiction avec la réglementation et ce qui permet aux agriculteurs dans le département de pouvoir bénéficier d'une manœuvre bon marché qui couvre la quasi-totalité de leurs besoins. Ce contrat lie le salarié à un seul et unique employeur avec des contrats à durée déterminée, donc que l'employeur est libre de ne pas renouveler d'une année sur l'autre, et ça met le salarié dans une situation de subordination et de dépendance totale qui fait que ça se fera au bénéfice quasiment exclusif de l'employeur qui va mettre à profit cette dépendance pour imposer des cadences de travail très importantes et des heures supplémentaires qui ne seront pas rémunérées, la non-application de la convention collective, notamment pour prendre en compte la qualification réelle des ouvriers, acquise notamment par l'expérience. Ils sont maintenus au SMIC toute leur vie, sans aucune des primes qui sont affectées. Notamment,
ils cotisent au chômage.
Voilà, ils cotisent au chômage, etc., etc. Et puis quand le contrat est terminé, on rentre chez soi. Et entre deux, et on n'a bien sûr pas le droit de se plaindre, parce que si il y a la moindre velléité de dénoncer les conditions de travail qui leur sont réservées, ça se traduit par le non-renouvellement du contrat, donc le retour à la pauvreté qui règne au Maroc, mais ça peut aussi se retourner contre l'ensemble des membres de la famille, parce qu'on vient pas, on vient en général en famille travailler, c'est-à-dire qu'en fait il y a un système qui lie tout le monde, et voilà, c'est un peu, en résumé, un peu comme ça que ça se passe.
Patrick Herman.
Oui, je voulais rajouter une chose. Les contrats OMI spécifiquement étaient résultaient d'une convention bilatérale passée avec d'une part le Maroc et la Tunisie en 63 et beaucoup plus tard en 92 avec la Pologne. Donc c'est simplement ces trois pays qui étaient concernés par ce qu'on appelle couramment les contrats OMI.
Ce qu'on peut dire par rapport à ce que Hervé vient de dire, c'est que dans le livre, on n'a pas forcément pris ou on n'a pas forcément fait parler des gens qui étaient dans ce cheminement-là ou en tout cas dans ces frontières-là. C'est-à-dire qu'on a... On a travaillé avec des gens qui ont un parcours de saisonnier qui est assez particulier. C'est pas forcément des saisonniers lambda qui ont courbé les chines toute leur vie, ou alors qui ont courbé les chines pendant un certain nombre d'années, mais qui ont parlé à un autre moment. Donc c'est peut-être pas un stéréotype de ce qu'on peut rencontrer dans les champs aujourd'hui. Mais c'était un parti pris en tout cas pour le livre.
Ceux qui témoignent, qui pourraient témoigner, risquent gros. Hein. En tout cas, risquent
ça,
leur
c'est
emploi.
Certain, ouais.
Majoritairement. Dans le livre, vous parlez très rapidement, je trouve, mais justement, j'aimerais bien qu'on aille vers ça, de ce rattachement entre d'anciens grands propriétaires colons en Algérie qui récupèrent les ouvriers qu'ils avaient marocains à l'époque encore et qu'ils ont récupérés, qu'ils ont fait venir ici aujourd'hui.
Ben, c'est un peu l'hypothèse sur laquelle moi j'ai travaillé, enfin on a travaillé... au fil du temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question sur la genèse de ce système-là. Et il se trouve que dans le Rif marocain, donc, on a été accueillis dans une famille dont le monsieur qui est à la retraite, qui a 70 ans à peu près, nous a raconté que son père travaillait déjà chez un colon français en Algérie. Donc effectivement, il y avait une migration des Rifains vers l'Algérie, dans la région d'Oran en particulier, pour travailler dans les vignes et dans les autres plantations. Et c'était une tradition très établie dans le Rif, hein, puisque ça date du 19e siècle. Et lorsque l'indépendance de l'Algérie est arrivée, effectivement, beaucoup de gens qui avaient des propriétés dans les plaines algériennes se sont rapatriés en France. Et qu'on aille dans la plaine orientale de la Corse, dans le sud-ouest, dans la région d'Albi, plus loin, dans le Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, dans le Languedoc-Roussillon ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on retrouve donc cette présence d'anciens propriétaires de domaines coloniaux en Algérie, qui ont effectivement, à l'indépendance, pour certains d'entre eux du moins, rapatrié une partie de leur main-d'œuvre, qui a été finalement ce qui a permis d'amorcer d'une certaine manière la pompe à main-d'œuvre. Il faut noter d'ailleurs que les conventions bilatérales passées avec le Maroc et la Tunisie sont intervenues en 1963, c'est-à-dire juste après l'indépendance algérienne. Et voilà, donc ça c'est une hypothèse qui était intéressante à creuser, et ce qui est intéressant de voir, c'est de retrouver un peu la manière dont la main-d'œuvre a été traitée dans ces domaines coloniaux en Algérie, et voir s'il y a des filiations, même si ce n'est pas, pas une reproduction à l'identique, des filiations dans le système de main-d'œuvre. Parce que finalement, ce livre, enfin du moins en ce qui concerne le texte, parce que dans les photos c'est moins explicite, concerne finalement le rapport entre le système de production intensif et le système d'emploi. C'est-à-dire que ce livre ne concerne pas l'agriculture en général, il ne concerne pas l'élevage, il ne concerne pas les petites exploitations agricoles en autarcie ou en polyculture ou en circuit court, etc. Il cible très précisément les zones spécialisées de production intensive en fruits et légumes. Voilà. D'ailleurs, je voudrais reprendre quelque chose qui a été dit en introduction, où tu disais tout à l'heure que, en particulier sur l'Espagne, c'était des grandes propriétés. Et ça n'est pas tout à fait exact. Hein. Dans la région d'Almeria, dans celle de Huelva, ça n'est pas des grandes propriétés. C'est pas les latifundias. Les latifundias sont à l'intérieur de l'Andalousie sur les productions d'huile d'olive ou d'autres types de production. Mais en ce qui concerne la structure des exploitations sur la production de fraises ou la production de fruits et légumes, dans la région d'Almeria, il s'agit de petites propriétés. Donc il ne faut pas avoir le schéma en tête du grand propriétaire avec 3000 hectares et une armée de péons qui travaillent pour lui. Là, ce sont aussi des petites propriétés qui peuvent aller jusqu'à 2 hectares ou entre 2 et 4 hectares, pas plus, en ce qui concerne Almeria.
Voilà. Dernièrement, au Côte des Traces, vous avez décidé de porter plainte, de faire une saisine de la Halde. On s'est retrouvé l'autre matin devant la DDTE à Marseille pour porter cette saisine. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Louis Breton, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui en quoi consistait cette action ?
Oui, eh bien, c'est finalement une première occasion de publiquement intéresser les pouvoirs publics à la reconnaissance du fait qu'il y a dans ce département 4000 personnes qui sont invisibles, mais sur lesquels finalement repose la survie de l'agriculture intensive dont parlait Patrick tout à l'heure, au moins dans le secteur des fruits et légumes. C'est peut-être pas le cas de la vigne, enfin ce n'est pas le cas de la vigne, mais il n'y aurait plus depuis longtemps de production de fruits ou de légumes dans ce département et peut-être dans pas mal d'autres départements voisins s'il n'y avait pas la présence de ces travailleurs étrangers. Or, du fait de la pratique de l'administration dont Hervé parlait tout à l'heure, qui consiste à les enfermer par un artifice administratif et juridico-administratif dans ce statut de saisonnier, ces gens-là ne sont pas traités comme doivent l'être tous les travailleurs, c'est-à-dire, enfin, dans notre République au moins, en respectant la stricte égalité. Pas seulement dans notre République. Si on veut parler sur un plan un peu juridique, comme doivent l'être dans tous les pays qui ont ratifié des conventions internationales visant à ce que les travailleurs soient traités de la même façon, indépendamment de leur nationalité, de leur sexe, de leur religion, de leur statut, etc. Donc, nous estimons que là, il y a, de la part de l'administration, une pratique qui rompt ce principe fondamental d'égalité. Et il en découle que ces gens-là, n'étant pas traités comme les autres, subissent des préjudices considérables. C'est-à-dire qu'il y a tout un nombre considérable de droits qui sont reconnus à des travailleurs permanents, normaux, qu'ils soient français ou étrangers, peu importe, ne leur sont pas reconnus à eux. Et en saisissant la HALDE, on demande à la HALDE de se prononcer sur ce qui est pour nous, pour le moment, un point de vue. Si la HALDE admet ce point de vue, ça deviendra beaucoup plus proche d'une vérité très peu discutable. Et on ne fait que finalement mettre en œuvre ce qui aurait dû être mis en œuvre par l'administration elle-même. Parce que ce statut, ce sous-statut de travailleur saisonnier, qui en fait sert à la main-d'œuvre permanente, a été dénoncé par l'administration elle-même. Il y a eu en 2001 une inspection générale. L'inspection générale, c'est ce qu'on déclenche en général, ce que l'administration déclenche quand il y a quelque chose qui ne va pas. L'inspection générale des services pour la police, c'est quand vraiment il y a eu une grosse bavure. Eh bien, dans toutes les administrations, il y a une inspection générale. Et là, en 2001, non seulement il y en a eu une, mais il y en a eu deux conjointes. À la fois, l'administration de l'agriculture a délégué un inspecteur général qui s'appelle Guy Vanek. Non, qui s'appelle...
Non, c'est...
Je ne me souviens plus de son prénom. Monsieur Vanek. Et en même temps, le ministère des Affaires sociales envoyait avec lui Monsieur Guy Clary, inspecteur général des Affaires sociales. Et ces deux personnes, en moins de 15 jours, d'ailleurs ils connaissaient le système avant, mais ont rédigé un rapport qui est catastrophique pour l'administration. Où ils disent très clairement, on détourne la réglementation sous la pression des lobbies agricoles. Bon, ce rapport a été classé secret et restait évidemment lettre morte. On pourrait penser que dans un état de droit, si les choses n'avaient pas été réparées rapidement, eh bien, l'administration aurait dû insister pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Ça n'a pas été le cas et nous estimons de notre responsabilité de citoyen de relayer cette administration défaillante. Donc nous demandons à la Haute Autorité de lutte contre la discrimination de se prononcer sur le statut de ces travailleurs.
Pour l'instant, elle n'a pas encore répondu. Il faudra le temps, j'imagine, si elle le fait.
On a observé c'est une haute autorité qui a une petite existence. Elle a un an et demi. Et de ce que l'on a pu observer de son comportement, elle réagit relativement rapidement. Donc on peut espérer que dans les mois qui viennent, elle pourra rendre un avis.
On peut noter que sur votre site du Code des Traces, vous me direz si je me trompe, mais ces rapports sont disponibles.
Absolument. www.codetraces.org.
Tiraille. Elf B de l'Attirail. Est-ce qu'on peut différencier ce qu'il se passe déjà entre les deux pays, entre la France et l'Espagne, et même ici dans les Bouches-du-Rhône, entre la région de Berlétan avec Saint-Martin-de-Croix, est-ce qu'on peut donner des spécificités d'emploi de ces saisonniers agricoles?
Oui, je ne sais pas s'il y a des micro-spécificités, mais on va déjà parler au niveau des pays. On peut dire, enfin, moi ce que je considère après avoir donc travaillé là-dessus pendant quelques années, c'est qu'il y a des variantes effectivement, c'est-à-dire que le système à Huelva n'est pas le même que le système d'Almeria, et que le système d'Almeria n'est pas le même que celui des Bouches-du-Rhône ou des Contrahomi. Les principes sont les mêmes en fait. Le but du jeu, finalement, c'est de considérer la main-d'œuvre comme une variable d'ajustement et d'avoir une main-d'œuvre la plus bas coût possible. À partir de là, suivant les spécificités locales ou nationales, les employeurs jouent sur tel ou tel critère ou mettent au point ou adaptent leur stratégie en fonction d'un certain nombre de critères ou de données locales pour, je dirais, pianoter sur ce qu'ils ont à leur portée, de manière à faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Alors, à Huelva, ça sera par exemple les contrats d'origine. Les contrats d'origine sont des contrats qui sont passés, qui ont entériné à partir de 2001 l'arrivée massive des femmes de pays de l'Est, en particulier Roumanie et Pologne dans un premier temps, et puis maintenant Bulgarie et autres, pour ramasser des fraises. Cet appel de main-d'œuvre, cet appel à cette main-d'œuvre est caractéristique de la région de Huelva. Il est beaucoup moins développé dans la région d'Almeria. Et il faut noter qu'il est intervenu après que la main-d'œuvre maghrébine et marocaine en particulier avait commencé à revendiquer un certain nombre de droits. Donc on voit nettement là une adaptation de la stratégie des employeurs pour changer de pied, si on peut dire, et partir sur un nouveau système d'emploi, adapter le système d'emploi qui est très évolutif, qui bouge sans arrêt. La région d'Almeria, les contrats d'origine, donc, sont beaucoup moins présents. Alors, les contrats d'origine, pour dire en deux mots, consistent à faire appel à ces pays comme la Pologne ou la Roumanie, où une présélection est faite par les autorités roumaines ou polonaises sur place, et où les représentants des syndicats ou des associations de producteurs, des groupements de producteurs locaux, vont eux-mêmes parachever la présélection sur place et opérer la sélection finale. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, sur le système de main-d'œuvre, le système d'emploi d'Almeria est un peu différent. Il est basé beaucoup plus sur une main-d'œuvre non déclarée. C'est un peu différent de la région de Huelva. Le système de main-d'œuvre des Bouches-du-Rhône en particulier, et lui, sa spécificité, ça a été les contrats OMI. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toujours un appel à différents types de main-d'œuvre. Vous avez une main-d'œuvre permanente limitée, vous avez une main-d'œuvre précaire dont les contrats OMI sont un exemple, vous avez maintenant le recours à des prestataires de services. Le système, comme disait un inspecteur du travail, enfin plutôt un directeur de l'ITEPSA, l'inspection du travail agricole de Dordogne, que j'ai croisé là récemment au procès qui avait lieu aux assises de Périgueux, le procès de cette personne qui avait tué, cet agriculteur qui avait tué deux contrôleurs du travail, un de la MSA, un de l'inspection du travail, lors d'un contrôle sur son exploitation. Il avait cette formule, la délinquance s'habille toujours, c'est-à-dire que il m'avait expliqué que lorsqu'il était arrivé en Dordogne, la délinquance, c'était sur 10 salariés, sur 10 personnes employées sur une exploitation, il n'y en avait une que de déclarer, et encore 3 mois par an. Bon, à la suite d'une intervention un peu conséquente, tout ça s'est mis un peu aux normes. Mais du coup, la triche, l'escroquerie s'est déplacée ailleurs. Et maintenant, l'essentiel se fait sur les heures supplémentaires non déclarées. Donc il y a toujours, il avait la formule de dire que donc, la délinquance s'habille toujours avec de nouveaux habits et s'adapte toujours.
On fait payer les contrats OMI aux travailleurs aussi. Hein.
Alors pour en revenir aux contrats OMI, oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que finalement, Les chefs d'équipe, qui sont souvent des Marocains, qui ont une carte de séjour, qui peuvent être les anciens ouvriers permanents, s'occupent du recrutement pour les employeurs. Alors après, il est difficile de savoir si effectivement il y a un trafic sur le paiement, puisque pour un salarié marocain, pour un ouvrier marocain, il accepte de payer très cher un premier contrat parce que pour lui, finalement, c'est une espèce d'investissement à moyen terme au moins, en pensant qu'il sera renouvelé chaque année. Donc, il accepte de payer jusqu'à 8 à 10 000 euros un premier contrat en imaginant que bon, ça va rouler sur 10, 15 ou 20 ans. Voilà, c'est donc une espèce d'assurance sur l'avenir qui peut être démentie par les faits d'ailleurs, mais ça, c'est une autre question. Quoi.
Cette sélection aussi que vous décrivez, c'est la foire aux bestiaux, la sélection au Maroc des employeurs qui vont au Maroc choisir leurs ouvriers.
Oui, ben la sélection au Maroc se faisait par l'intermédiaire de ses recruteurs et par l'intermédiaire donc du siège de l'OMI à Casablanca. Mais auparavant, effectivement, beaucoup d'employeurs allaient directement vérifier sur place et choisir sur place les salariés dont ils estimaient avoir besoin, c'est-à-dire... On nous a rapporté souvent qu'effectivement, ceux qui étaient analphabètes et qui venaient des doigts reculés étaient préférables, effectivement, à quelqu'un qui savait lire ou qui savait écrire, qui aurait pu être susceptible de connaître un petit bout de ses droits. Donc là, c'était vraiment un critère de sélection, quoi. Et en ce qui concerne le recrutement des femmes polonaises ou roumaines, elles nous ont dit elles-mêmes qu'elles étaient choisies al physico, qui est le titre du quatrième chapitre de ce bouquin, c'est-à-dire à vue. Donc un jury où les femmes défilent devant une table où sont les représentants des employeurs espagnols et qui sélectionnent à vue. Donc avec leurs critères à eux, il ne faut pas qu'elles soient trop grandes, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, et on regarde ses mains, enfin bref.
4000 ouvriers en France, c'est ça ? Environ dans le département ?
Non, entre 3 et 4 000, bon, ça a dû baisser un peu, mais l'ensemble de... Je ne me souviens plus des derniers chiffres, mais c'était 13 000 contrats omis à peu près en France, je ne sais plus, en 2005-2006, avec maintenant une montée en puissance des Polonais, effectivement, depuis un certain temps. Alors pour en revenir juste à ces entreprises prestataires de services et à cette manière dont les employeurs adaptent sans arrêt leur stratégie, il y a tout un trafic qui s'est monté depuis un certain temps avec des fausses entreprises de travail agricole et qui font en fait du prêt de main d'œuvre à but lucratif. Voilà. Donc tout ça est replacé dans le cadre d'une sous-traitance généralisée de la main d'œuvre où finalement les exploitants agricoles se déchargent sur des prestataires de services pour qu'on leur fournisse la main-d'œuvre. Et ces entreprises de travail agricole sont des entreprises de travail agricole bidons, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne viennent pas avec leur matériel, avec une prestation technique particulière. Les ouvriers qui travaillent pour elles ne sont pas sous leur propre direction. C'est l'exploitant agricole qui fournit le matériel, etc. Et ça permet toutes les dérives, parce que pour être une entreprise de travail temporaire, il faut avoir une caution bancaire très importante qui se monte environ à 100 000 euros maintenant. Et donc, il est bien évident que ceux qui se sont lancés dans ce trafic n'ont pas les moyens d'avoir cette caution bancaire. Donc, ils se font immatriculer en tant qu'entreprise de travail agricole. Mais en fait, ils font du prêt de main-d'œuvre à but lucratif.
Je reviens sur ce que tu disais, Louis, tout à l'heure. Évidemment, l'inspection du travail, tout le monde est au courant de ces manœuvres. Hein, oui.
J'avais rendez-vous vendredi dernier avec l'inspecteur du travail qui... à la demande du procureur d'Aix-en-Provence, voulait avoir un avis sur la situation d'un travailleur saisonnier qui a été correctement exploité pendant 23 ans. Et il a ressorti le dossier d'inspection sur l'exploitation où travaillait ce travailleur saisonnier. Et en fait, il est apparu qu'il y avait une plainte qui avait été déposée, une plainte anonyme, en 2004, par un avocat qui a pris le soin de cacher les noms des salariés pour les heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Et donc, ça a déclenché une inspection du travail qui n'a rien pu donner. C'est-à-dire que, d'une façon générale, déjà, quand ils interviennent sur les exploitations, les inspecteurs du travail ne recueilleront pas auprès des ouvriers des plaintes particulières parce que, comme je le disais tout à l'heure, la moindre velléité de protestation se traduit par la fin des contrats. Donc, ils ne se risqueront pas à ça. Mais y compris quand il y a eu une plainte qui a été déposée, c'est-à-dire qu'un ouvrier a été voir un avocat et a réussi à faire quelque chose, il n'apparaît pas, il n'a pas pris de risque, l'inspecteur du travail n'a pas pu faire aboutir les choses, il n'a pas rien pu constater sur place, parce qu'une fois qu'il aboutit, quand il débarque sur l'exploitation, personne ne va dire qu'effectivement il est maltraité, qu'il est mal payé, etc. etc. quoi. Donc oui, tout le monde le sait, mais il y a une espèce d'omerta, d'impunité qui fait que ça ne sera pas dénoncé, sauf quand les ouvriers arrivent en fin de contrat après 25 ans de carrière, soit ils sont jetés pour une raison ou pour une autre à la suite d'un accident du travail, soit l'exploitation change de propriétaire. À ce moment-là, le contingent de travailleurs saisonniers n'est pas repris. Et là, quand les gens se retrouvent plantés...
Ils n'ont plus rien à perdre.
Ils n'ont plus rien à perdre. À ce moment-là, ils se réveillent. Et là, on se retrouve avec des procédures au prud'homme qui entraînent 20, 30 ouvriers d'un seul coup. Alors, sur des arriérés de salaire qui sont phénoménaux. On se retrouve avec des fois plusieurs centaines de milliers d'euros que les ouvriers réclament, et ce qui sont des chiffres pas du tout surestimés, ils sont même souvent sous-estimés, que les ouvriers réclament à leur patron. Enfin, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que le système est complètement pervers, et en fait, il est perdant pour tout le monde, en fait. Il est perdant pour les ouvriers agricoles, mais il est aussi perdant à terme pour les patrons qui prennent un risque énorme en fin de carrière de se retrouver avec des procédures qui peuvent leur coûter très très cher, quoi. Et bon.
C'est sûr, ça ?
C'est un risque,
Patrick,
en tout cas.
Patrick Herman fait la moue.
Non, mais je pensais que. Je sais pas, je pensais à une chose, c'est que les formes sociétaires ont beaucoup progressé dans les Bouches-du-Rhône ou dans la région. Et souvent, effectivement, il y a des dépôts de bilan bienvenus lorsqu'il y a des contentieux au prud'homme, où il y a quand même. Bon, disons que les employeurs ne sont pas forcément pris à la gorge. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Hervé, mais. Par un contentieux qui arriverait au bout de 20-25 ans comme ça, le risque est quand même pas, pour l'instant, considérable.
Là, le cas de Balois, son patron, il est...
Balois qui vient d'être régularisé.
Sa société n'existe plus, et c'est bien le patron qui est poursuivi. Et puis, s'il ne paye pas, on compte bien le faire payer sur ses biens propres. Donc, je sais pas, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante, mais...
Parce que là, en fait, ça va être une première, un peu, le cas de Balois. On peut le résumer rapidement
Balois, c'est effectivement un peu l'ouvrier emblématique, mais absolument pas exceptionnel. Il y en a plein qui sont comme lui, quoi. Bon, il a travaillé pendant 23 ans, entre 1982 et 2005, 8 mois par an. Alors, dans une saison qui, dans un verger de pommiers, qui regroupait et la cueillette et la taille. La cueillette, il faut 35 ouvriers, la taille, il en faut plus que 4, mais la loi autorise de regrouper ça dans une seule et unique saison. Ça fait partie des petits arrangements pris par le gouvernement, par voie de décret, pour faire plaisir aux agriculteurs et pour pouvoir permettre l'introduction de travailleurs saisonniers. Et puis voilà, quoi. Bon, 8 mois par an, à raison de 10 heures par jour, 6 jours sur 7, ça fait que il a fourni une quantité de travail considérable où tous les maxima horaires ont été dépassés. C'est quand même. À payer. Le mode de rémunération était simple, toutes les heures étaient payées, mais en dessous du SMIC. Donc, ça revenait grosso modo à ne pas payer les heures supplémentaires du tout, quoi. Et voilà, c'est bon. Alors, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que Balois avait noté pendant 20 ans sur des cahiers toutes ses heures de travail. Donc, on a pu estimer très précisément le préjudice. Et puis, son patron a commis l'erreur de le payer en liquide, mais avec des enveloppes sur lesquelles apparaissait le taux horaire fois le nombre d'heures effectuées. C'est écrit de sa main. Donc, on peut recouper ça avec les cahiers. Et on a pu estimer très précisément le préjudice. C'est ce qui va permettre de coincer le patron, quoi, d'établir la preuve. Voilà, mais c'est un exemple caractéristique. Alors bon, pour donner une idée de l'exploitation, ça nous a permis de calculer le nombre d'heures que Balois a fait à titre gratuit. Ça fait quand même 3 ans de travail équivalent temps plein. Ce qui nous a permis aussi de dire que ces situations des travailleurs saisonniers frisées avec le travail forcé et avec des cas de servitude ou d'esclavage moderne, même si en droit pur on risque de ne pas pouvoir le caractériser, c'est-à-dire qu'on risque malgré tout de ne pas avoir atteint un degré tel de gravité pour qu'on puisse revendiquer de l'esclavage, mais en tout cas il y a clairement à but de personnes vulnérables et dépendantes, quoi. En tout cas, on a pu mesurer voilà, que bah, ce régime aboutit pour des salariés, notamment à être sous-payés. Il y a 250 000 euros de préjudice pour ce seul ouvrier, mais il a fourni 3 ans de travail gratos, quoi. Donc c'est un peu le service du travail obligatoire, quoi, dans les Bouches-du-Rhône avec les travailleurs saisonniers au MI.
C'est un espoir un peu ce procès?
Bah, c'est surtout que la médiatisation qu'il y a eu autour de Balois permet de faire parler. Et puis d'autres dossiers qu'il y a, parce que c'est pas le seul, il y a aussi celui de Naïma, il y en a plusieurs, quoi. Et puis toutes ces histoires permettent de régulièrement alimenter les médias de ces histoires-là. Balois, il a fait une page pleine dans Le Monde, il a fait une page pleine dans Libération, ça crée ça choque, ça interpelle. Et du coup, grâce à ça, on peut faire connaître la situation des travailleurs saisonniers, sinon la plupart resteraient dans l'ombre, quoi.
Et les travailleurs en Espagne et en France sont aussi bien défendus?
Je pense que de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus difficile en Espagne en particulier de défendre les travailleurs saisonniers. Lorsqu'il y a eu les émeutes racistes à Lérido en février 2001, je crois qu'il y a eu quelques centaines de plaintes qui ont été déposées, puisqu'il y avait eu des bastonnades et des chasses aux faciès, des magasins détruits, des dizaines de blessés, etc., etc., des logements incendiés. Et aucune de ces plaintes n'a abouti et la plupart des avocats se sont désistés pour venir défendre sur place, tellement la pression est forte et tellement l'ambiance est vraiment tendue dans ces zones-là, quoi. Donc effectivement, en France, de ce point de vue-là, en particulier dans les Bouches-du-Rhône d'ailleurs, je pense que c'est un peu différent.
Sur quoi on pourrait faire le prolongement de ce livre? Quels sont les lieux où vous n'avez pas été? Tu parlais tout à l'heure de ces plantations de pommes. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça.
Oui, on avait fait un petit tour dans le sud-ouest et on s'était intéressé à ce qui se passe dans le Tarn-et-Garonne ou le Lot-et-Garonne, etc. Là-bas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le plus gros producteur de kiwis de France, avec des vergers de pommiers aussi, avec... quelques dizaines de salariés au MI, avec la même chose qu'on constate dans les Bouches-du-Rhône. C'est moins massif, mais enfin, c'est du même ordre. Dans le Bordelais aussi, enfin, je veux dire... En Corse, n'en parlons pas. Moi, ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est de découvrir finalement qu'il existait dans nos démocraties dites avancées des zones de non-droit, finalement, une réapparition du servage, de forme de servitude... sans que finalement personne s'en soit aperçu, à part ceux qui étaient témoins directs, parce que c'était un secret de polichinelle quand même pour les gens qui vivaient sur place. Je me rappelle d'un article de David Bornstein, je crois, dans Libération, qui était un des premiers à travailler là-dessus, ou à faire un papier là-dessus en 89, je crois, où il disait qu'à Château-Renard, tout le monde savait comment était traitée la main-d'œuvre saisonnière maghrébine en particulier. Tout le monde le savait. Mais ce... Hormis, enfin, il y a effectivement la loi du silence dans tous ces villages provençaux. Là. Mais dans les villes, bien évidemment, déjà que le problème de l'agriculture échappe à la plupart des gens qui n'y connaissent rien et bon, à qui ça passe largement au-dessus de la tête. Alors, si en plus il faut s'intéresser aux ouvriers agricoles et en plus aux saisonniers agricoles, c'est bien évidemment personne n'est au courant de rien. Et moi-même, effectivement, avant que je m'intéresse à ça, moi j'habite dans une région d'élevage, donc je n'étais pas du tout à la proximité, au contact direct de ça. Mais j'imaginais pas ce que j'allais découvrir, effectivement, en tirant un peu cette ficelle-là, ce fil-là, quoi.
Denis, tu as travaillé 15 ans.
17.
Ouais. 17. C'est une situation que tu as vue dégringoler ou non, se maintenir?
C'est une situation qui, dès le départ, elle était très visible, enfin, pour moi, qui était à proximité de ces ouvriers. Mais il y avait cette angoisse et cette peur de ces ouvriers de s'exprimer. Hein. Donc ils avaient juste un questionnement sur leurs droits. Enfin, ils étaient tous au courant en tout cas ceux qui venaient me voir, de l'exploitation dans laquelle ils se trouvaient. Mais ils n'étaient pas en capacité de réagir sur quoi que ce soit, dans la mesure où ils savaient à la fois qu'il y avait cette pression, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, cette pression sur l'ensemble du groupe, hein, dans la mesure où la plupart des exploitants ont bien trouvé le moyen de coincer un peu cette population, c'est-à-dire le recrutement, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, tous les contrats sont des contrats nominatifs, c'est-à-dire que l'employeur choisit les personnes nominativement et c'est chaque année il redemande les personnes. Donc il y a,
et en prenant des membres de sa famille,
voilà,
les,
nous, du village,
les
voilà.
Tient entre eux.
Voilà, donc il y a une certaine forme de, je dirais, il y a toujours quelqu'un qui est un petit peu le représentant du groupe, du collectif, et qui fait un petit peu, enfin ils font leur propre police en interne, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui revendique un droit, le reste de la communauté lui dit bon, maintenant il faut que tu arrêtes, tu vas mettre en danger l'ensemble de la communauté, et donc il faut te taire. Donc pendant des années ça a été ça, et jusqu'en 2000-2001, et je crois que c'est à cette période-là où on a commencé à voir une cassure. Alors elle s'explique à mon avis par plusieurs raisons. La première, ça a été que de 95 à 2000, on s'est retrouvé avec... Il y a eu un accord en 95 qui a... Le gouvernement ne voulait plus que les saisonniers rentrent. Donc il y a eu un accord qui empêchait les exploitants agricoles d'avoir des primo-contrats. Donc ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient faire revenir que les contrats saisonniers omis qu'ils avaient déjà. En sachant que dans ces périodes-là, en 1995, 80% des saisonniers omis étaient dans les Bouches-du-Rhône et essentiellement des Marocains. Et donc les ouvriers agricoles, sachant ça, ont commencé à avoir un rapport différent vis-à-vis de leurs exploitants, en sachant qu'ils étaient, ils pouvaient renégocier leurs conditions dans la mesure où ils savaient que les exploitants n'avaient pas d'autre choix que de les reprendre d'une année sur l'autre. À partir de fin 2000, un gros exploitant des Bouches-du-Rhône a cassé cet accord et a obtenu l'introduction de primo-contrats dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'est traduit en 2001 par l'entrée de 1400 ou 1500 primo-contrats et toutes sortes de trafics. Il y a eu un appel d'air qui s'est produit. Et donc, ça a été l'occasion pour certains exploitants de se débarrasser d'une certaine main-d'œuvre qui devenait un peu revendicative ces dernières années, mais aussi de se débarrasser d'une certaine main-d'œuvre qui commençait à être vieillissante. Il faut se rappeler que ça fait quand même 30 ans que ça dure, et de remplacer par des plus jeunes. Voilà. Et à partir de là, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées sans boulot, qui ont commencé à revendiquer. Et c'est un peu aussi l'explication aussi des cinq dernières années de conflits de plus en plus importants au niveau du prud'homme, etc.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à tous d'être venus témoigner. Alors évidemment, les photos sur le livre que nous ne pouvons pas encore, la technique sera peut-être là un jour pour ça, nous ne pouvons pas les voir à la radio, mais les photos sont là aussi pour témoigner dans quel genre d'habitation sont reçues ces populations, que ce soit ici, dans les Bouches-du-Rhône ou en Espagne. Merci donc à tous, Louis Breton, Hervé Gouillet, Denis Nathan-Elic. Merci à vous, Johan Lamoulet, et Patrick Herman. Votre livre La Roue sort aux éditions Kiasma. Il est disponible où ?
Il est disponible, on ne sait pas trop encore, mais il est disponible déjà à Marseille, dans un peu toutes les librairies militantes. Après, on a des problèmes de diffusion. Donc, voilà.
Et si on tape genre Kiasma sur Internet, on peut le commander peut-être.
Kiasma.net.
Ouais. Mm-hmm. Merci. Vous serez aussi à l'espace accueil étranger.
Le 21.
Le 21 mars, qu'est-ce qui va se passer alors ?
Alors, il va y avoir une petite projection d'une quinzaine de minutes et puis un petit débat après pour présenter le bouquin. Et 4 jours après, à l'espace Kiasma, au Lila, à Paris, la même chose.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Grenouille au www.grenouille888.org. On se quitte sur Polaco, un morceau du groupe Zaragraph.
Le temps passé, voyez venir des nuages, même très loin, je vous envoie aussi loin que les nuages. Je suis née.